France Culture.
De la colline, on domine l'univers mécanique placé sous le signe du lion jaune et bleu. Couleurs, images et lettres qui emplissent le paysage obsèdent le regard. Peugeot, tout est Peugeot, le métal et la pierre, la brique et la peau, le souffle et le cri. Peugeotville, Peugeotland, Peugeot tout. Ce paysage décrit en 1982 par Simone et Jean Lacouture dans leur journal de voyage en passant par la France, c'est celui du pays de Montbéliard dans lequel l'usine de Sochaux occupe une place considérable, toute la place même. Et ce n'est pas uniquement une question d'hectares. L'usine, autrefois de Peugeot, aujourd'hui de Stellantis, est omniprésente dans les vies, les souvenirs et les récits de celles et ceux qui y ont travaillé. Incarnation d'une mémoire vive qui ne cesse de se transmettre, d'un passé fait de lutte, de transformation de l'organisation du travail et aussi de l'espace qui l'environne. L'usine de Sochaux raconte les liens qui ont uni ses ouvrières et ses ouvriers hier et raconte aussi ce qu'être ouvrière, ouvrier aujourd'hui veut dire. C'est donc à ce territoire, ce fameux pays de la Peuge, situé tout à l'est du département du Doubs, témoin des heures de gloire de Peugeot, puis de la désindustrialisation des années 80 et 90, en somme de ce que l'histoire économique fait des destins individuels, que nous allons consacrer l'heure qui vient dans cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Ludovic Auger.
Voilà, nous sommes arrivés, vous êtes à Sochaux. Je regrette de ne pas pouvoir vous emmener plus loin, mais ça ne m'est malheureusement pas possible.
Mais c'est très bien comme
ça. Oui, merci beaucoup.
Tenez, voilà les usines Peugeot, c'est là que je travaille.
Les usines Peugeot, ça doit être intéressant. Peut-on les visiter?
Je pense que oui. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Si vous voulez, rendez-vous dans une demi-heure au centre de livraison. C'est le bâtiment de briques que vous voyez là-bas.
Ah, oui, d'accord. Ah oui.
À tout à l'heure. Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. J'ai pu obtenir l'autorisation de vous faire pénétrer dans les usines. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
Et ce n'est pas Monsieur Lebrac qui va nous accompagner aujourd'hui, mais le sociologue Nicolas Renaï et l'historien Nicolas Hatzfeld. Nicolas Hatzfeld, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes historien, donc je le disais, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Évry, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les gens d'usine, 50 ans d'histoire à Peugeot-Sochaux » paru aux éditions de l'Atelier. Nicolas Renaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, l'INRAE. Jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez fait paraître à la Découverte l'année dernière. Et vous êtes avec nous, je le précise, à distance depuis les studios d'ici à Dijon. Et je remercie Richard Lardry qui assure ce duplex. Alors que Antonio Filosa succède à Carlos Tavares, qui a démissionné, on s'en souvient, en décembre 2024 de la direction de Stellantis, Antonio Filosa donc se rend le jour même de sa nomination, le 28 mai dernier, à l'usine de Sochaux, en sa qualité d'usine historique. Nicolas Renaï, que représente aujourd'hui cette usine?
Alors physiquement, je ne veux pas dire plus grand-chose, mais par rapport à ce qu'elle a été, plus grand-chose. Il y a beaucoup de locaux qui ont été détruits, reconvertis, etc. Et puis, symboliquement, elle est toujours là, elle fonctionne toujours. Il y a toujours des ouvrières, des ouvriers qui y travaillent, mais dans des proportions nettement moindres. Et donc, on peut dire que cette usine, si on la considère du point de vue du monde ouvrier, elle représente une classe ouvrière qui a disparu, ou du moins qui n'existe plus vraiment dans l'espace public.
Oui, puisque je crois que sur les 12 000 salariés au total que compte l'usine, 3 000 sont ouvrières, ouvriers. Nicolas Hatzfeld, à quoi est lié ce caractère très symbolique qu'évoquait à l'instant Nicolas Renaï de cette usine de Sochaux? Et vous-même, quel rapport entretenez-vous avec cette usine, avec ce terrain, ce territoire-là?
Ben mon rapport, il est un peu à l'image de celui de beaucoup de gens de ma génération, c'est-à-dire que à 19 ans, j'y suis allé. Et à ce moment-là, cette usine était en train de devenir plus importante que Boulogne-Billancourt. Et Boulogne-Billancourt, c'était en gros le phare de l'image du monde social, et en tous les cas du monde du travail, du monde ouvrier aussi, et aussi du syndicalisme, etc. Et Sochaux était en train de passer devant. Et pour plusieurs décennies. Donc c'était quelque chose de très fascinant. Ce que vous avez cité de du couple Lacouture est tout à fait à l'image de ce que ça représentait pour les gens qui connaissaient et ce que ça s'est mis à représenter de plus en plus lourdement pour la France entière c'était le monde industriel de plus en plus clairement illustré par ça.
Nicolas Hetzfeld, quand vous y êtes allé vers l'âge de 19 ans, c'était en qualité de quoi ?
Alors, j'y allais, j'étais un jeune 68-art et j'y allais après avoir réfléchi et pensé qu'il fallait faire la révolution et qu'il fallait la commencer par les usines. Et donc, cette usine qui avait connu un conflit d'une extrême violence en 68, représentait pour moi sûrement un des points où il fallait aller pour accélérer l'affaire.
Et nous allons voir effectivement comment mai 68 a été vécu à l'intérieur même de l'usine, de ce lieu qui incarne, nous allons le voir, un passé, un présent et un avenir aussi industriel. Et aussi Nicolas Renaï, c'est un lieu où vous avez mené l'enquête. Alors pour comprendre la raison qui vous a poussé à choisir ce terrain, je vous propose d'écouter la voix d'un ancien ouvrier de l'usine Peugeot. Cette voix, c'est celle de Christian Corrouge au micro de Daniel Mermet dans un épisode de Là-bas si j'y suis, diffusé en juin 2011 sur France Inter.
Je suis retraité, donc, au bout de 42 ans d'usine.
D'usine, chez Peugeot.
Chez Peugeot.
À Sochaux.
À Sochaux. Je suis rentré en 69 et donc je suis parti en 2011. Et j'ai bossé, pratiquement 25 ans sur les chaînes comme OS. Mon problème, c'était que j'ai jamais pu réussir à écrire un mot. Autant je peux parler, autant je suis incapable de rédiger sur long terme. Donc voilà, donc il fallait à tout prix que quelqu'un le fasse pour moi. Et avec Michel a une façon de poser les questions qui m'oblige en même temps à me replonger dans mes souvenirs, dans mes expériences. Et quand je suis pas au point, faut que je rebouquine un peu pour être au point la prochaine fois qu'il viendra. Donc avec Michel, c'est ce boulot-là qu'on a fait quand même pendant 25 ans. Alors, de dire comment on a procédé, gentiment, simplement, Michel venait à Betoncourt, chez moi, donc à côté de Sochaux, et puis on discutait pendant une journée, deux jours, et puis voilà, et puis il en faisait un article, ou il en faisait pas, mais c'était transcrit, puis un jour ça donnait 1600 pages pour le ministère du Plan. Et donc ça a donné ça, mais on aurait pu s'arrêter là, et en fait on continue à le même genre de choses, le même genre, alors bien sûr sur des sujets très différents parce que l'usine s'est beaucoup modifiée. Moi j'étais aussi, je suis à la retraite, donc c'est un peu différent. Mais on continue à parler régulièrement parce que justement, ça nous semble utile, ça donne une cohésion à notre vie, je crois, à la sienne comme à la mienne. Mmh. C'est la démarche même que c'est pas parce qu'on est ouvrier, c'est pas parce qu'on est OS, c'est pas parce qu'on est en chaîne qu'on n'a pas des choses à dire, à condition que quelqu'un écoute et sache écouter.
Nicolas Renaï, vous n'êtes pas le premier à vous être intéressé à ce lieu de l'usine de Sochaux. Et puisque cette semaine, d'Entendez-vous l'écho, se penche et consacrée à la notion de transmission, il nous faut là évoquer la figure d'un autre sociologue, celle de Michel Pialou, qui évoque également Christian Corrouge. Alors comment ce duo, Michel Pialou, Christian Corrouge, a-t-il joué sur votre choix de terrain et de sujet ?
Et en fait, j'ai été l'élève de Michel Pialou dans les années 90. Et à l'université Paris 5, et c'est lui qui m'a mis en contact avec Christian Corrouge quand je souhaitais m'intéresser aux usages sociaux de la forêt, puisqu'il m'a dit « Mais tu sais, Christian, c'est un grand affouagiste. » Donc les affouages, c'est le fait d'aller couper son bois dans les forêts communales. On dispose, par l'intermédiaire des agents de l'ONF, d'un petit lot d'affouages où on va couper directement son bois et on le ramène à la maison. Et donc évidemment, ça m'a beaucoup intéressé. Notamment parce que évidemment, enfin, la figure de Christian Corrouge est très connue. Personnellement, elle a participé à ma formation puisque je l'ai dit, j'avais été l'étudiant de Michel au moment même où il enquêtait à Sochaux-Montbéliard. Et en parlant avec Michel Pialou du Corrouge affouagiste, j'avais un voile qui s'ouvrait, c'est-à-dire que c'est pas le Corrouge qui intéressait vraiment Pialou. Du moins, c'est pas ce qu'il donnait à en voir dans ses publications. Ce qui intéressait, enfin, Christian vient de le dire avec l'entretien de chez Mermet, ce qui les intéressait tous les deux, c'était la condition de l'OS et la vie à l'usine. Et Michel a offert une écoute à Christian.
Nicolas.
Christian, retraité en 2011, comme le témoignage est très beau de réentendre ça aujourd'hui. Quand je le rencontre en 2019, ça fait un moment qu'il est retraité. Et pourtant, c'est comme si sa condition ouvrière se prolongeait. quand je le rencontre. Et c'est ça qui est fascinant. Alors, évidemment, je fais la figure de Christian Corrouge, mais au-delà. C'est-à-dire que c'est pas simplement le côté individuel du personnage, c'est toutes ses appartenances sociales, tout ce qui fait le groupe, les groupes dans lesquels il est, au moment où, après plusieurs personnes, Michel Pialoux, puis Stéphane Beau, etc., je suis hébergé à son domicile pour enquêter sur la forêt. Et d'un coup, enfin, progressivement, je me rends compte que, oui, la forêt, c'est intéressant, mais on va mettre le sujet avec Christian entre parenthèses, parce que la vie de son groupe, la vie de retraité, à la fois prolonge la condition ouvrière par un ensemble de pratiques, par le lien aux personnes qui sont toujours actives dans l'usine et aux plus jeunes, etc. Et en même temps, c'est un témoignage de la force du militantisme qui se prolonge dans certaines conditions, bien après la retraite.
Nicolas Renaillou, on le comprend, vous dressez dans votre livre enquête un portrait en creux, finalement, de l'usine de Sochaux à travers les témoignages de celles et ceux qui y ont travaillé et en interrogeant ce que vieillir en tant qu'ouvrier et qu'ouvrière veut dire. Quelle place occupe le lieu de l'usine et le pays de Montbéliard dans les témoignages que vous avez pu recueillir?
Alors, le pays de Montbéliard et l'usine, ce sont deux choses différentes. Le pays de Montbéliard, c'est quand même assez grand, assez vaste. C'est un ensemble de petites villes et de villages séparés par des champs, des forêts, etc. Dans leur vie, en fait, alors, faut évoquer quand même l'évolution de la sociologie du pays de Montbéliard. Le pays de Montbéliard a beaucoup vieilli. La proportion de retraités atteint 18% de l'ensemble de la population, ce qui est quand même assez important. Et puis, le monde ouvrier a beaucoup changé, évidemment. Stellantis, aujourd'hui, c'est 3000 et quelques ouvriers pour 5500 salariés en tout. Donc, en fait, l'usine s'est complètement rapetissée. Elle s'est déconstruite, donc c'est la déconstruction du groupe ouvrier qui s'est prolongé, comme l'avait étudié Michel Pialoux avec Stéphane Vaux. Mais comme la population a vieilli, la mémoire ouvrière est toujours très présente. D'autant que dans le groupe de militantes et de militants que je rencontre, il y a ce que j'ai dit, c'est-à-dire le lien aux actifs, aux syndicalistes d'aujourd'hui, aux personnes qui travaillent dans l'usine sans forcément être syndiquées. Et donc, il y a un lien qui est toujours là, dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois une mémoire ouvrière, la mémoire de leur temps d'activité, mais c'est aussi toujours une actualité, puisque ces militantes et ces militants sont très au courant, bien sûr, de l'évolution de Stellantis, de l'évolution des conditions d'emploi, et du fait que si l'usine n'est plus le cœur du pays de Montbéliard, comme le définissait Nicolas Hatzfeld dans Les gens d'usine, et c'était au début des années 2000, il y a toujours une immense partie de la population qui est ouvrière dans le pays de Montbéliard. Simplement, une bonne part d'entre elles va travailler à côté, juste à côté, en Suisse.
Et on le comprend, c'est à la fois une question de mémoire, mais une mémoire finalement qui vit encore. Vous le dites très bien, les personnes que vous avez pu rencontrer sont encore très au courant des évolutions actuelles du groupe et sont aussi très mobilisées encore. Nicolas Hatzfeld, l'histoire de l'usine de Sochaux est indispensable et indissociable, surtout de celles et ceux qui y ont travaillé. Est-ce que c'est en cela qu'on peut parler d'un lieu de mémoire collective aussi pour cette usine? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous vous intéressez également aux gens d'usine, pour reprendre effectivement le titre de votre ouvrage?
Je m'étais étonné quand j'avais relu le sommaire des lieux de mémoire, donc dirigé par Pierre Nora, qu'il n'y ait pas usine en tant que telle. Et ça m'avait étonné parce que, voilà. Déjà, à cette époque-là, il y avait très lourdement de quoi faire quelque chose sur les usines comme endroit de vie, bien sûr, encore dans les années 80, mais déjà très lourdement de mémoire. Alors, cette usine, c'est un pas de côté dans l'histoire industrielle de la région, donc du nord-est de la Franche-Comté, comme on dit dans l'INSEE. C'est-à-dire que le groupe Peugeot, la famille Peugeot, les choses étaient un petit peu entremêlées, même très entremêlées, avaient déjà presque un siècle d'histoire et ils avaient fait toute une série de fabrications, surtout métallurgiques. Ils les avaient faites un peu en amont entre Sochaux et la Suisse. En gros, voilà. Et ils faisaient des crinolines, ils faisaient des outils, ils faisaient des vélos. Et puis, un membre de la famille a dit, moi, je vais faire des voitures parce que, enfin, des voitures parce que c'est ça l'avenir. Et les autres de la famille ne voulaient pas le suivre, ne voulaient pas miser lourd là-dedans. Et donc, il a fait un peu sécession. Dans sa sécession, il y a eu la fondation d'une entreprise qui était encore dans le groupe familial, mais autonome. Et puis, assez vite, il a acquis un terrain qui était large et vide, et presque totalement vide, à côté de Montbéliard, à côté de Sochaux, entre les deux.
Alors, pour bien comprendre comment ce territoire se configure en héritage aussi de ce très long 19e siècle qu'on a commencé à décrire, je vous propose d'écouter un extrait d'un film professionnel commandé par la direction des établissements Peugeot en 1954, intitulé « En passant par la Franche-Comté » et réalisé par Michel Boyer.
Si vous le voulez bien, citions tout d'abord l'endroit où nous nous trouvons. C'est dans la vallée du Doubs, entre les Vosges et le Jura, dans la trouée de Belfort, et au carrefour de la Suisse, de l'Alsace et de la Franche-Comté, que se situe exactement le groupe de production de Sochaux-Montbéliard. Dans cette région, 6 générations d'hommes ont écrit l'histoire de Peugeot depuis la fin du XVIIIe siècle. L'usine de Pont-de-Roide, fondée en 1841, lamine à froid des aciers très filés et inoxydables. L'usine de Bourguignon, 1907, se consacre au laminage à chaud de produits sidérurgiques. L'usine de Beaulieu, créée il y a un siècle, 1857, produit des cyclomoteurs, vélomoteurs, motos et scooters. Valentinier, depuis 1843, produit des outillages et du profilage d'acier. Audincourt, construit en 1898, s'est spécialisé dans la fabrication d'appareils électroménagers et d'accessoires automobiles.
Nicolas Hatzfeld, vous souhaitiez réagir sur ce son et puis la nature même aussi de ce qui vient d'être diffusé.
Ben, le film, c'est vraiment typique du prestige de l'industrie à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est un film qui est clairement un film publicitaire, mais qui passait dans les salles de cinéma comme première séance qu'il y avait dans les séances de cinéma autrefois, un documentaire, le moment des Esquimaux et des bonbons, et puis le vrai film. Et donc ça passait et tout le monde prenait ça comme un documentaire normal.
Sans connaître la dimension plus commerciale,
voilà.
Peut-être.
Derrière. Et les entreprises pouvaient diffuser, on avait vu ça chez Renault avec d'autres collègues, les entreprises pouvaient diffuser à la fois à titre publicitaire ou à titre documentaire le même contenu, vantant la puissance, le dynamisme et le plaisir du travail dans l'industrie.
Alors vous nous l'avez dit, Nicolas Hatzfeld, ce territoire pris au sens très large est fortement marqué dès le début du 19e siècle par l'industrie, alors qu'elle soit textile, métallurgique, vous avez parlé de casseroles notamment, ça marque un peu tout le territoire. Alors pourquoi, comment comprendre que la famille ou le groupe Peugeot décide d'implanter là sa première usine au tout début du XXe siècle, donc 100 ans plus tard? Est-ce que c'est justement pour bénéficier des avantages d'un territoire déjà fortement industrialisé et donc d'une main-d'œuvre, on pourrait le supposer, déjà compétente?
Oui, je crois que c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils avaient... Ils ont un petit peu hésité à savoir s'ils allaient se déplacer sur Paris, la région parisienne à un moment. Mais je crois que c'était un tout petit peu plus tard. Jean-Louis Loubet, qui a beaucoup étudié ça, le sait plus précisément que moi. Mais très vite, ils ont choisi de rester dans cette région parce qu'il y avait le tissu industriel, le tissu ouvrier. Il y avait des communications qui, à l'époque, étaient très largement suffisantes en voie d'eau, en route, en chemin de fer. Il y avait du bois, il y avait du charbon pas très loin, du métal, donc il y avait vraiment tout pour faire. Et toute une série de grosses entreprises se sont installées dans la région.
Alors on a déjà évoqué une première partie de ce fameux film promotionnel commandé par la direction de Peugeot. Je vous propose d'écouter une seconde partie qui nous explique comment tout s'accélère assez rapidement.
En 1912, naissait l'usine de Sochaux. En 1928, une vaste reconcentration transformait la petite usine de Montbéliard en l'une des plus grandes cités industrielles d'Europe. Depuis, c'est là que se fabriquent entièrement les automobiles Peugeot. L'agglomération ne cesse de s'agrandir. Des travaux de comblement et de terrassement permettent de gagner du terrain sur le cours de l'Allan pour construire de nouveaux ateliers. L'ensemble représente une surface couverte de 35 hectares. Avec les cités, la superficie totale est de 245 hectares. Sous les verrières, dans les ateliers, dans les bureaux, 17 000 personnes travaillent. Les centrales distribuent par jour 400 000 kWh d'électricité et en une année dévorent 75 000 tonnes de charbon, soit l'équivalence de 150 trains.
Allô, allô, centrale, envoyez chaudière numéro 3 pour engoutissage. Merci.
Dans un premier temps, ce sont des véhicules utilitaires qui sont produits dans l'usine de Sochaux, ouverte en 1912 et d'une superficie de 20 000 mètres carrés et qui emploie alors 400 ouvriers. Très rapidement, on l'entendait, l'usine s'étend. Nicolas Asfeld, on peut rappeler peut-être que Peugeot a non seulement profité de l'industrialisation galopante, mais aussi, a fortiori, des guerres mondiales et encore à plus forte raison de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc à partir des années 45-48 que les choses s'accélèrent véritablement.
Oui, la première a beaucoup aidé à faire de la production de série, à apprendre à travailler et à faire de la série. La seconde a été plutôt source de dégâts puisqu'il y a eu des bombardements, puisque l'usine était réquisitionnée par les Allemands, bombardements alliés, et puis il y a eu des pillages allemands avant la fin de la guerre. Mais comme toute une série d'autres entreprises automobiles et comme l'État, le gouvernement, l'administration française, l'automobile était pensée, raisonnée comme une industrie d'avenir. Il fallait passer à la production de masse.
Et puis ce qu'on entend aussi dans ce film promotionnel de 1954, Nicolas Hatzfeld, c'est que rapidement, des logements sont construits. La ville de Sochaux tout entière et même la région se trouve modifiée. On peut vraiment parler à cette échelle régionale-là.
Oui, alors là, il y a ces échelles. Juste une petite remarque, le film, on entend bien son caractère futuriste, ambitieux, on dévore, etc. Mais l'échelle de production à cette époque-là est autour de 500-600 voitures par jour. Après, on arrivera à 2000-2500 dans les grands moments. Donc, le discours est toujours un discours de conquête énorme. Et c'est un peu pareil pour l'ensemble des activités du pays. Il faut toujours équiper davantage, donc il faut des routes, il faut des logements et différents types de logements. Des logements pour les gens qui sont stables, des logements qui sont pour les ouvriers qui sont de passage. Il faut une école, il faut du ravitaillement, c'est-à-dire des magasins alimentaires. Et tout ça va plus vite, il faut plus et plus vite que ce que l'économie ordinaire pourrait offrir.
Ce qui est intéressant avec cette question des logements, c'est aussi qu'elle interroge tout simplement la question de savoir qui sont les ouvriers et ouvrières qui travaillent pour Peugeot à ce moment-là. Nicolas Renaï, dans ces années, cette toute fin des années 40, années 50, la main-d'œuvre est-elle plutôt locale ou au contraire face à ces besoins grandissants et puis aussi face à une concurrence quand même qui se met en place? Est-ce qu'on a besoin de recruter de plus en plus large?
Alors dans les années 50, je pourrais pas vous dire, c'est plutôt Nicolas qui pourrait vous dire ça. Moi, ce que j'ai observé en consultant notamment les travaux de Nicolas Asfeld, c'est le tournant des années 70 en fait, où l'usine change vraiment de dimension. C'est ce qu'évoquait à travers son témoignage Nicolas Asfeld au tout début de l'émission, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Peugeot ferme son école professionnelle et passe à une production de masse. Mais vraiment, avec on arrive à 36 000 ouvriers en 1973, je crois, donc c'est énorme. C'est vraiment l'effectif est très très massivement ouvrier et avec un changement de fond qui est que l'école professionnelle a fermé. On a toujours besoin d'ouvriers professionnels, des ouvriers qualifiés, fondeurs, ajusteurs, etc. Mais on a surtout besoin de main d'œuvre. Pour être sur les chaînes, pour travailler sur les chaînes, puisque là, la productivité, comme l'a dit Nicolas, s'accélère énormément. Et là, la population, effectivement, va beaucoup changer, puisqu'il y a des recruteurs qui sont envoyés en Turquie, au Maghreb, mais aussi dans toute la France, qui vont attirer des hommes, souvent des jeunes hommes célibataires, qui sont logés dans des conditions, on pourrait dire indignes, et qui vont. Alors, ces classes populaires-là sont très mobiles. Il y a beaucoup de gens qui viennent, il y en a beaucoup qui partent, qui vont pas forcément rester longtemps, quelques mois, quelques années. Mais il y a quand même une fixation certaine de cette main-d'œuvre. Et puis, comme c'est la période d'entrée massive des femmes sur le marché du travail, il y a beaucoup de jeunes femmes des environs qui rentrent aussi à l'usine comme ouvrières spécialisées.
Donc plutôt une main-d'œuvre locale.
Ce sont souvent des filles ouvrières, du moins pour celles que j'ai rencontrées, qui sont aujourd'hui à la retraite et toujours en vie.
Nicolas Renaï, on le voit, les choses s'intensifient encore au tout début des années 70. Alors, on a parlé de la question du logement, hein, puisque Peugeot fournit un effort de construction au début des années 50 jusqu'au milieu des années 70, destiné, vous le disiez, aux célibataires et aux familles, mais en mettant l'accent, on va dire, sur les célibataires, le personnel que vous avez décrit comme moins stable, on va dire, moins sage potentiellement. Nicolas Hatzfeld, on a parlé de la région, de la façon dont le paysage se modifie autour de l'usine. C'est son environnement immédiat, mais on peut aussi s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur des murs de l'usine. Est-ce que cette intensification de la production transforme les méthodes de travail, l'organisation même du travail? Est-ce qu'il y a une forme de rationalisation qu'on peut observer dans l'organisation même du temps des ouvrières, des ouvriers?
Oui, ça c'était quand je me suis mis à faire de l'histoire, c'était une de mes grosses obsessions. Enfin, et dans les archives, on voit ça, on voit qu'il y a pour faire travailler des ouvriers sur les chaînes, il faut un gros travail de techniciens, d'ingénieurs qui ne peuvent pas se contenter d'un claquement de doigts en disant Taylor c'est bien, j'installe Taylor et boum ça marche. Il faut un travail persistant pour observer des ouvriers qui font des gestes et se dire ah ben tiens, je peux mettre au point quelque chose qui va leur faire avec un geste un peu différent les faire travailler autrement et faire produire davantage. Ça peut se traduire par un effort supplémentaire, mais c'est surtout que l'effort est différent. Et les techniques, en tous les cas, changent radicalement et sans arrêt. Je me rappelle avoir vu ça en étant accompagné par un ingénieur qui connaissait bien un atelier et qui me fait une visite dans les années 90. Et tout à coup, il tombe en arrêt. Il dit « Tiens, il y a ça, j'avais pas vu que c'était installé. » Et c'était un automatisme que quelqu'un avait installé. Ça n'est pas spectaculaire, mais c'est l'accumulation mois par mois dans les années 50, mois par mois dans les années 60, dans les années 70, accumulation de toute une série de modifications qui fait qu'il y a une productivité différente.
Et c'est vrai que cette modification, cette organisation à la fois du travail mais aussi de l'espace n'est pas laissée au hasard. Entre 1945 et 1965, la surface de l'ensemble hein, du site triple, donc on le comprend oui. Bien, il faut s'organiser. Il y a tout un ensemble de façons de concevoir les flux aussi entre les différents bâtiments qui jouent un rôle considérable. Nicolas Hatzfeld, vous dites même que ça contribue à redéfinir ce qu'est l'usine fondamentalement.
Oui, en gros, ce que je crois avoir compris de mes réflexions et d'autres, celles d'autres, Michel Perrault, Yves Cohen, c'est que en gros, une organisation des flux dans un ensemble industriel sophistiqué, complexe et lourd comme ça, ça dure à peu près 50 ans. Mais au bout d'un moment, il faut changer l'organisation des flux pour que ça continue d'être efficace. Et ça s'est passé 3 fois sur ce site de Sochaux.
Alors on a parlé de la question du logement qui est très importante, de la façon dont on réfléchit au travail, à l'espace au sein même de l'usine. Puis la famille, le groupe Peugeot va presque plus loin que le logement. Elle met aussi en place une école, Nicolas Renaï l'a mentionné, qui est ouverte de 1919 à 1970. Apprentissage dont se souviennent d'anciens ouvriers de l'usine Peugeot dans un reportage diffusé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté en janvier 2020.
À la fin de la première année, si vous n'aviez pas les notes suffisantes, ils ne vous gardaient pas. Hein. C'était crémé hein, au fur et à mesure des 3 ans. Donc moi, je sais que la première année, j'étais limite, donc je suis passé quand même. Et la deuxième année, ça s'est arrangé, donc j'ai fait les 3 ans. Mais c'est vrai que quand on passait le CAP à l'école Peugeot, il y avait 97% de réussite, vu qu'ils avaient éliminé avant tous ceux qui ne suivaient pas, quoi.
Mes souvenirs, c'était quand même discipline et rigueur. Je suis quelqu'un d'assez carré, donc ça m'allait bien, moi.
On a fait toute la législation, hein. Dans ce temps-là, on nous apprenait ce que c'était qu'un sénateur, qu'un député. Tous les matins, à l'école Peugeot, il y avait la morale. Je prends des exemples hein, qui viennent comme ça l'idée. Quand t'es dans un car, tu laisses ta place à une femme enceinte, par exemple. Quand tu vois une personne dans la rue, tu te découvres. C'est un chapeau. Voilà, tu voleras pas, hein.
Nicolas Hatzfeld, quel était le but de cette école? Est-ce qu'il faut y voir là aussi une façon, si on rajoute la question du logement là-dessus, est-ce qu'il faut voir cette prise en charge de la question plus sociale, une façon d'attirer aussi la main-d'œuvre et de, qui pourrait constituer une forme de produit d'appel, si on pourrait dire, dans un contexte assez concurrentiel en la matière?
Il y a de ça, c'est pas encore quand l'entreprise crée l'école, il y a pas de concurrence.
1919,
ils répondent à un vide. En gros, l'enseignement professionnel marche pas très bien. Et donc, toute une série de grosses entreprises disent « Bon, puisque ça marche pas très bien, on le prend en charge, nous. » et il crée des écoles d'apprentissage. Et celle-là, donc, est un peu à l'image de ce qui se fait dans toute une série de grosses entreprises. C'est-à-dire, il donne à penser qu'en venant chez eux, les enfants qui sont pour partie des enfants du personnel, mais pas toujours, pas seulement, vont avoir une belle carrière. Et ça se passe effectivement parce que les parents qui veillent à l'avenir de leurs enfants les placent là, les surveillent, ils ont des bons résultats. Donc il y a une espèce de, en termes de qualité d'enseignement et qualité de carrière, de qualité de résultat, il y a une espèce de cercle vertueux, de spirale plutôt vertueuse qui s'enclenche. Et ces élèves, une fois qu'ils sont sortis, il y en a qui partent d'ailleurs, qui ne rentrent pas dans l'entreprise, mais comme ça se passe pour la fonction publique, il y a des espèces d'obligations, d'astreinte, 1 an, 2 ans, sinon on rembourse quelque chose. Mais surtout, il y a des carrières qui sont, pour la plupart des anciens élèves, des belles carrières, des carrières dans la maîtrise, ou bien dans les services professionnels de maintenance, d'outillage. Et ce qui m'avait amené à faire l'histoire de cette école, c'est que j'avais remarqué à un moment que les leaders syndicalistes de la CGT, de la CFDT, de Force Ouvrière, d'ailleurs je crois qu'on a entendu un ancien leader de Force Ouvrière, le deuxième témoignage, étaient tous sortis, y compris, j'en oublie un cas de figure d'extrême gauche, étaient tous sortis de cette école d'apprentissage. Tous, en tous les cas, il y en avait dans toutes ces organisations syndicales. Et donc, je m'amusais en me disant, mais dans les réunions de comités d'entreprise, délégués, dans les grèves, ce sont des gens qui se sont connus sur les bancs de l'école, qui sont en train de s'empailler, et voilà, c'était de l'implicite du monde social, très conflictuel quand même, que, a priori, on pouvait ne pas voir, qui m'avait intéressé. Et dans les années 60, l'entreprise comprend que l'éducation nationale est en train de faire aussi bien et que ça vaut plus le coup de s'embêter à tenir une école comme ça. Mais dans les années 50, l'inspecteur d'académie venait et chantait les louanges de la performance de l'entreprise.
Une école qui finit par fermer ses portes en 1970, on l'a dit. Nicolas Renaï, est-ce que cette école fait partie des souvenirs de celles et ceux que vous avez pu interroger, ou est-ce que c'est déjà un souvenir un peu trop ancien ?
Alors non, parce que la plupart de celles et ceux que j'ai interviewés, soit étaient des femmes, et tu me contrediras Nicolas, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de femmes à l'école Peugeot.
Nicolas,
tu as dit non. Soit c'était ceux qui sont arrivés dans ces années 70, à partir de la fin des années 60, et donc qui étaient là pour être sur chaîne en tant qu'ouvriers spécialisés. Et donc même quand ils étaient qualifiés, ce qui était le cas de Christian Corrouge, ils étaient déqualifiés dans leur tâche. Du coup, l'école Peugeot, il aurait fallu que je fasse une enquête sur d'autres populations, ceux qui avaient pu devenir passer contremaître ou d'autres générations, pour la rencontrer. C'est plutôt la contre-école que j'ai rencontrée.
Nicolas Hatzfeld, c'est vrai qu'on peut se poser la question, dans quelle mesure il s'agit là d'une forme, si on parle à la fois de la question du logement mais de l'école, et puis on pourrait parler plus tard aussi de la mise en place de magasins alimentaires, dans quelle mesure s'agit-il là d'un paternalisme assumé de la part de Peugeot ?
Il y a de ça, en tous les cas tout ça s'est assumé, c'est-à-dire que jusqu'aux années 70, l'entreprise a affiché les efforts qu'elle faisait indirectement pour son personnel entre guillemets. Ça avait commencé à l'occasion de la Première Guerre mondiale, ça avait commencé même avant, au 19e siècle avec des logements, etc. Je pense que ce qui mérite d'être pris avec un peu de délicatesse, c'est cette image, c'est pas le mot de paternalisme, mais c'est un peu l'image que ça entraîne, c'est-à-dire la volonté de dominer. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du marché. C'est-à-dire que pour conserver de la main-d'œuvre, il faut aussi lui offrir du répondant. Sinon, elle part ailleurs. Nicolas Renaï l'a dit, et ça n'arrête pas. Donc l'entreprise est sous la pression, bien sûr, des conflits, etc., mais aussi du conflit implicite qui consiste à prendre la tangente et à partir.
Et du reste, Peugeot met aussi en place une politique de salaire qui est peut-être assez attirante.
Et moi, j'avais vu dans les archives, dans les années 46, 47, 48, où il y a une inflation énorme, que l'entreprise, si elle n'y prenait pas garde, voyait partir, s'enfuir des gens qui allaient à 5 km, 10 km, parce qu'il y avait 5% de plus en salaire. Et à partir de là, ils ont mis en place un système de veille sur les prix, et sur les salaires de leurs collègues, confrères et concurrents pour être toujours au-dessus d'eux, pour être toujours, en gros, les premiers servis du point de vue des demandeurs d'emploi, pour qu'ils soient l'emploi prioritaire que visent les gens dans la région. Et les gens venant d'ailleurs, comme l'a dit Nicolas Raneil, de toute la France, hein, qu'ils aient d'abord envie d'aller chez Peugeot plutôt que d'aller ailleurs.
Nicolas Raneil, on l'a dit, ces années 70 et un peu après également sont des années de bouleversement dans le sens où en 1972, l'usine de Sochaux surclasse celle de Billancourt. C'est un peu l'acmé, on va dire, de cette trajectoire-là. À ce moment-là se pose la question donc, du recrutement de la main-d'œuvre. Vous l'avez dit vous-même, et notamment à travers la question du logement, que certains sont beaucoup moins bien logés. Mais en fait, ça veut tout dire aussi, hein, les logements insalubres que d'autres en fonction tout simplement du pays d'origine de ces ouvriers-là. Est-ce que ce recrutement, on va dire, très, très élargi, joue aussi sur les liens de solidarité à l'intérieur de l'usine, joue aussi sur l'engagement syndical? Est-ce qu'il y a une différence à faire parmi les ouvriers à cette époque-là?
Alors, du point de vue du patronat, oui, dans la mesure où vous l'avez évoqué, en fonction des nationalités, les jeunes hommes ne sont pas logés à la même enseigne, pour l'image est bonne. Du point de vue du groupe, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas évoquer le contexte politique de l'époque et les luttes politiques pour partis interclassistes qui sont très très fortes à ce moment-là, dans ces années 70. On est dans ce qu'on appelle les années 68. Ce mouvement de fond qui court, c'est compliqué de le dater précisément, mais en gros une dizaine d'années entre 65 et 75, quoi. Ce moment politique où tout est possible. Et donc du coup, j'ai observé notamment en allant voir Hamid, qui est un Tunisien arrivé en 74, en interviewant les ceux qui sont français mais qui ont été toute leur vie mobilisés, une forme de, j'appelle ça une forme d'internationalisme pratique, en pratique, c'est-à-dire que un camarade de chaîne, quelles que soient ses origines, c'est d'abord un camarade de chaîne. Et en fonction de sa posture par rapport à la hiérarchie, on l'aide ou on l'aide pas, mais c'est d'abord l'ordre industriel et la manière d'y réagir qui vont ordonner les solidarités. Mais effectivement, à ce moment-là, vu la masse des ouvriers spécialisés et aussi des ouvrières spécialisées, ça crée des tensions aussi au sein des syndicats, puisqu'il y a une voix majoritaire qui devient majoritaire dans le groupe ouvrier, qui est celle des personnes qui sont spécialisées, qui ne sont pas qualifiées, qui considèrent ne pas être entendues et ne pas voir ses revendications être clairement mises en avant et défendues.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliatovine.
Vous cherchiez du travail? Je vous en apporte. Quel travail? Le plus beau, le plus noble, pour la plus grande gloire de votre famille, pour la plus grande gloire de la patrie, de la nation. Vous allez construire des voitures automobiles Peugeot.
Un extrait du film Weekend à Sochaux, réalisé par les groupes Medvedkin, entre 1971 et 1972. Nicolas Raneil, peut-être un mot, là encore, sur la nature du document sonore qu'on vient d'entendre et sur ce que sont ces groupes Medvedkin.
Oui, les groupes Medvedkin, ça commence... Bah, Nicolas Hatzfeld connaît très bien, puisqu'il a travaillé sur la grève de la Rodière en 1967 à Besançon, qui est le point de départ de ce mouvement cinématographique, où en fait, des cinéastes intellectuels, parisiens, etc., débarquent à Besançon pour enquêter sur le monde ouvrier. Et ils font un premier film qui s'appelle « À bientôt, j'espère ». Et quand ils montrent, lors d'une première séance à Besançon, le film aux ouvriers qui ont été filmés, il y a tout de suite une insatisfaction de la part exprimée par un ouvrier qui dit oui. Alors, j'ai plus les mots en tête exacts, mais en gros, l'idée, c'est de dire oui, il est bien votre film, mais encore une fois, c'est un film de Parisiens, c'est pas nous. Enfin, c'est nous, mais on voit pas notre quotidien, on voit pas nos femmes, on voit pas la difficulté du travail en usine, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les années 68, Chris Marker, donc le leader du groupe des cinéastes, dit « Ok, banco, on va revenir, on va pas vous laisser tomber. » D'où l'ironie du titre « À bientôt, j'espère » du premier film. On va revenir, on va envoyer des techniciens qui vont vous former au cinéma et on va faire ces films ensemble. Et puis... À l'époque, Peugeot Sochaux, le comité d'entreprise et la CGT est majoritaire et a acquis un lieu en pleine campagne entre Besançon et Sochaux. Et donc, il y a des rencontres qui vont se faire entre militants de différentes usines, mais aussi avec tout le milieu culturel, contre-culturel de l'époque. Et il y a une forme d'émulation culturelle qui se met en place. Et rapidement, Bruno Muel notamment, un des cinéastes du groupe, technicien à l'époque, décide de filmer aussi à Sochaux. Ce qui donne le film sur 68, la lutte, les morts, l'attaque des CRS, etc., le nombre de blessés. Et puis, après, plusieurs grands films qui ont été faits dans ce moment où on observe avec le recul quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire par la politique, par la politisation, par la conscience des différences sociales des uns et des autres, il y a une relation interclassiste qui va vers un but commun. Ce but, c'est la révolution telle que l'a évoqué Nicolas Hatzfeld en commençant l'émission, mais c'est aussi une révolution intime, c'est-à-dire qu'il s'agit beaucoup de se changer soi à travers ces films des groupes Medvedkin. En gros, on quitte l'image de l'ouvrier cégétiste, voire salinien, communiste, le poing levé, un homme fort, français évidemment, et pour voir l'envers du décor. À chaque fois dans ces films, il y a ce geste-là de montrer ce que c'est que la condition ouvrière dans sa dureté, mais aussi dans toute sa sensibilité. Et ressort à travers ça toute l'aspiration culturelle de ces populations qui, juste après la première massification scolaire des années 60, reste au bas de l'échelle sociale, mais a quand même des aspirations.
Nicolas Hatzfeld, il nous faut là embrasser de front aussi ce qui s'est passé en mai 68 au sein de l'usine de Sochaux. Vous le dites, hein, la mémoire collective s'appuie notamment sur le mouvement de 1968 que seule une minorité d'anciens a directement vécu, mais qui a donné naissance à un mythe fort. Pour quelles raisons? Que s'est-il passé à ce moment-là?
Il s'est passé l'entrée dans le grand mouvement de mai juin 68, de cette usine qui avait connu une décennie de conflits très vifs. Ça avait commencé en 60, 61, 63, 65. Donc il y avait, à la différence de ce qu'on imagine, il y avait déjà toute une série de conflictualités de types différents, d'abord sur l'intensification du travail et d'autre part sur les salaires, en gros pour dire les choses très vite. 68 arrive, l'usine entre en grève, elle a l'impression d'arriver très en retard, c'est pas le cas du tout, elle est vraiment dans le tempo, et la grève se donne lieu à une occupation. Alors l'occupation est complexe parce que le site est déjà très très vaste et compliqué, avec toute une série de bâtiments. L'occupation se fait et puis il y a un moment où début juin l'entreprise commence à la direction de l'entreprise commence à s'impatienter, le pouvoir gaulliste aussi, et ils veulent forcer un petit peu la reprise des usines automobiles occupées. Donc le 10 et le 11 juin, ils envoient des CRS d'abord à Flins, Renault Flins. Conflit, bagarre énorme, un jeune étudiant meurt, et le 11, bagarre encore plus énorme à Peugeot Sochaux, avec des blessés et deux ouvriers morts, dont un qui est tué par balles qui viennent de la police là ou de la gendarmerie, et l'autre meurt par suite d'un choc.
Et on le comprend, Nicolas Hatzfeld, mai 68 marque un tournant de ce point de vue-là, y compris dans les relations sociales à Sochaux, entre la direction et les ouvriers. C'est un moment très fort.
Tout le monde est traumatisé, tout le pays est traumatisé. D'abord, la police s'en va le soir, sur injonction, après des résistances et des incompréhensions étonnantes de la part de la direction d'entreprise et de la police. Mais il y a des menaces que des ouvriers aillent chercher des fusils, et la police en fait état. C'est pas ça, ce n'est pas du mythe. La police, j'ai regardé les archives, aux archives départementales de Besançon, et il est vraiment fait état de risques de gens qui viennent le soir avec des armes pour tirer sur les forces de l'ordre. Tellement la bagarre était forte.
Et on le comprend, c'est ainsi que mai 68 reste inscrit dans la mémoire collective. D'autres grèves suivront, Nicolas Hatzfeld, notamment en 1989. On en parle dans quelques instants, toujours sur France Culture.
Approche à ton cœur. ça change et que ça bouge. Lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en gonflant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain
Jean-François a été de tous les combats jusqu'au bout. Il avait pour moteur la liberté, la tolérance, la fraternité, la solidarité, la justice, la défense des travailleuses et des travailleurs, des plus humbles, des anonymes, des sans-toi, des sans-emploi, des sans-papiers, des sans-droits. Rendre aux plus humbles leur dignité, rendre à l'humanité l'espoir en un monde fait de justice, de paix et de fraternité. Pour lui, aucun défi n'est insurmontable, aucun objectif n'est inaccessible dès lors qu'il y a une conscience, une volonté, une force. Il n'a jamais plié les chines, il n'a jamais abandonné le combat, la lutte de classe, malgré les épreuves qu'il a dû traverser, les pressions et répressions patronales. Son parcours militant en est la preuve. Un hommage rendu à Jean-François, ancien responsable de la CGT d'Audincourt, décédé à l'âge de 64 ans, précédé du chiffon rouge de Michel Fugain. Un épisode que vous citez dans votre ouvrage, Nicolas Renailly, intitulé « Jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier » et une affirmation très forte de l'importance du groupe et de la persistance de la fraternité ouvrière. Or, les retraités d'aujourd'hui ont été les jeunes ouvriers d'hier et les jeunes ouvrières d'hier également, à l'époque où ces liens se forment dans le travail et dans la lutte. Et il est vrai, Nicolas Renailly, qu'à la toute fin des années 70, en 79, les moins de 35 ans représentent plus de la moitié de l'effectif et les moins de 45 ans plus des trois quarts à l'usine de Sochaux, qui est notre lieu de l'écho du jour. À ce moment-là, le personnel se structure de façon très diverse, nous l'avons vu. Est-ce qu'à partir du moment où toutes et tous ne viennent pas de la même région, il y a cette idée que c'est l'usine en fait qui occupe une place importante dans leur quotidien, dans leur vie sociale aussi, Nicolas Renailly?
Ah bah, l'usine est omniprésente, avec les logiques paternalistes évoquées tout à l'heure. Le ravitaillement s'est fait par les... Enfin bon, un système a été mis en place pour que l'usine puisse avoir de la main-d'œuvre et que cette main-d'œuvre se reproduise. Mais du point de vue du monde ouvrier, si on change l'échelle d'observation, ça rend une usine qui est là tout le temps. C'est elle qui nous loge, c'est elle qui trouve du travail à nos enfants, aux femmes quand elles, si elles veulent travailler, ou s'il y a un besoin de salaire supplémentaire. Donc effectivement, à ce moment-là, l'usine est vraiment omniprésente. Et en même temps, il n'y a jamais d'institution complètement totale. Il y a toujours des marges. Il y a toujours des manières de retourner la forte domination de l'usine. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui vient, mais je pense à Hubert Truxler, qui est un ouvrier retraité de l'usine aussi, qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « Grain de sable sous le capot », où il raconte dans ses années 70 la force du groupe dans cet ouvrage. C'est un ouvrage très drôle, où il raconte la force du groupe avec plein d'exemples, plein de potacheries, plein de... Par exemple, quand il y a des visites extérieures, tout à l'heure on entendait « est-ce qu'on peut la visiter cette usine ?» Oui, l'usine était très souvent visitée, ce qui donnait aux ouvriers l'impression d'être pris pour des animaux d'un zoo, quoi. Donc Hubert, à ce moment-là, Bébert, faisait le singe. Voilà, il mimait le singe, parce que le groupe autour de lui rigolait, parce qu'il y avait la force du groupe. Tout ce qui s'est passé après... À partir des années 80, il y a une grande grève en 1981 qui est d'abord une grève d'OS, qui est une grève perdante. Les OS ne gagnent pas. Et par contre, ils vont subir la réorganisation du travail dans les années 80. C'est le cœur du travail de Michel Pialoux. avec Christian Corrouge. Et voilà, ce qui m'intéresse beaucoup à chaque fois, c'est de voir l'envers du décor, de voir ce qui ne se dit pas. Et en cela, je suis effectivement l'ancien élève de Michel Pialoux.
Et c'est vrai que ces liens-là sont forts et ont une valeur particulière dans une époque, Nicolas Hatzfeld, où, il faut le dire, la fin des années 70, même dès le milieu des années 70, la période, ce temps devient particulièrement compliqué. Il y a la fusion avec Citroën en 1974, la reprise en 1978 de Chrysler Europe et surtout le passage de la production annuelle de l'ensemble de PSA France à 1,45 million de véhicules en 85 contre 2 millions pour les trois marques en 1979, tandis que les ventes en France connaissent un net ralentissement aussi entre 79 et 82, elle passe de 43% à 30% du marché. On peut le dire, l'usine de Sochaux subit de plein fouet la désindustrialisation, Nicolas Hatzfeld.
Oui, il y a un moment qui est très spectaculaire du point de vue des effectifs, c'est le passage entre 78 et 79. Jusque-là, les courbes d'effectifs n'arrêtent pas de monter, enfin n'arrêtent pas. Il y a des montées vraiment très très fortes. Nicolas Renaï parlait de 36 000 au milieu des années 70, à la fin des années 70. Quelques années plus tard, c'est 39, 42 000. Et à partir de là, c'est la dégringolade. Et on arrive donc aux chiffres évoqués tout à l'heure. Cette dégringolade-là sidère parce qu'elle heurte de plein fouet les imaginaires de progrès incessants que tout le monde partageait. Tout le monde, cadre, direction, ouvriers de la région, pensait que ça allait continuer de grossir, que peut-être au pire, ça allait arrêter de grossir. Mais imaginer que ça dégringolerait comme ça, personne ne l'imaginait. Et ça se trouve là aussi dans les archives, où des gens osent, à la fin des années 70, dire il va falloir peut-être envisager que ça arrête de grossir.
Et puis Nicolas Hatzfeld, il y a aussi des conséquences très concrètes sur l'organisation du travail, on a commencé à le dire, sur l'organisation, c'est les organisations syndicales également.
Alors, l'organisation du travail, au moment de l'intensification qu'évoque Nicolas Renaï, l'entreprise fait feu de tout bois pour faire travailler plus. C'est de l'intensification pure, c'est-à-dire sans changement d'outillage, d'appareillage, de flux, etc. C'est simplement faire travailler plus, y compris en achetant aux ouvriers les combines de savoir-faire qu'ils avaient. Ça, c'est pour éviter la faillite, mais après, il y aura une pression qui sera beaucoup plus encore plus violente à l'encontre des ouvriers sur si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. De toute façon, on n'a pas le choix, on fait ça.
Et face à ce mouvement-là, il y a évidemment la lutte, il y a évidemment des mouvements de colère. Alors, on l'a dit au tout début des années 80, Nicolas Renaï le disait, c'est une grève perdante face à l'intensification du travail. Et en 1989, à Sochaux comme à Mulhouse, les ouvriers Peugeot s'indignent face notamment au salaire des dirigeants et des paroles rapportées dans un reportage de l'agence Immédiat en septembre 1989.
Combien de gagne, mon gars ? 14 ans et bientôt 15. Bientôt 15 ans. Et je gagne 5 400 francs par mois.
Les conditions de travail, elles ont empiré depuis qu'on a robotisé. On diminue le personnel, mais la charge individuelle, le stress de travail n'a fait qu'augmenter. On a de plus en plus de boulot. Pour les contrôleurs, c'est une charge, donc je dirais, visuelle qui est augmentée. On a de plus en plus de responsabilités. On nous demande de faire de la qualité, on est tous des ouvriers professionnels, mais on est payés tous au SMIG.
Nous n'en pouvons plus. Calvet, pendant très très longtemps, nous a dit « serrez-vous la ceinture » pour aider l'entreprise. Aujourd'hui, nous constatons qu'après avoir partagé les pertes, nous disons à Calvet « partagez les bénéfices ». Et c'est vrai que de l'argent, il y en a à l'heure actuelle. Et pour pouvoir avoir de l'argent, Calvet nous impose de faire grève.
Nicolas Renaï, en quoi cette grève marque-t-elle également un tournant à l'époque des faits et comment a-t-elle marqué plusieurs années plus tard et jusqu'à aujourd'hui encore les mémoires ?
Alors, je vais reprendre à nouveau une réflexion, une expression d'Hubert Truxler. Il a écrit dans son ouvrage, quand il l'a réédité, il a écrit la fin de l'histoire, c'est-à-dire cette grève de 89, il l'a inclus dans sa chronique et il l'appelle la der des der. Et je trouve que l'expression est vraiment très, très juste, parce que on l'a vu, les années 80 sont très dures pour le groupe ouvrier, et donc il y a vraiment un ras-le-bol, et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le groupe commence à perdre le pouvoir qu'il avait dans l'usine, c'est-à-dire qu'une usine de 40 000 personnes évidemment, mais avec toute l'organisation et la hiérarchie qu'on peut mettre en place, il y a forcément du pouvoir qui est conféré au groupe ouvrier. Nicolas Asfeld évoquait les astuces que l'entreprise essaie de racheter, etc. C'est un combat syndical, ça, justement, de ne pas donner les astuces à la hiérarchie. Du coup, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, la grève de 89. Alors, elle marque parce que deux mois plus tard, il y a la chute du mur de Berlin aussi. Il y a un contexte politique très singulier et c'est le second septennat de François Mitterrand. Et la question ouvrière, c'est, me semble-t-il, la dernière fois en France où elle est posée avec autant de vérité et de virulence. À ce moment-là, encore, les partis de gauche savent qu'ils ne peuvent pas faire sans la classe ouvrière. Et puis, le mur de Berlin tombe. Alors, la grève est une grève victorieuse, mais le mur de Berlin tombe, et puis le travail reprend, les choses continuent, et le processus qu'a décrit Nicolas Asfeld sur les années 80 continue dans ces années-là, et la déstructuration du groupe ouvrier se prolonge. Ce qui rend, une fois qu'on est en retraite, ce moment 89 d'autant plus important, puisque c'est le moment où, un, on était ensemble, deux, on a gagné ensemble. Et voilà, la plupart des retraités que j'ai rencontrés ont gardé leur fiche de paye de la fin du mois de septembre 89 avec le chiffre zéro en bas. Certaines regardent avec nostalgie régulièrement les photos de ces moments, qui sont des moments exceptionnels du point de vue de l'entreprise, mais aussi dans la vie de ces personnes, quoi, puisque une grande grève comme ça, c'est aussi le moyen de découvrir cette immense usine que l'on ne connaît que par le petit bout de la lorgnette, par l'atelier dans lequel on travaille ou celui où on a été, où on a travaillé antérieurement. Mais là, on rencontre des camarades de l'ensemble de l'usine et on va dans les ateliers qu'on connaît pas pour essayer de faire débrayer les autres. Donc c'est vraiment une expérience exceptionnelle et qui forge. Quand je présente l'ouvrage, j'ai plusieurs fois eu des cheminots dans la salle, en librairie, qui m'expliquaient que pour eux, leur grève des 89 à eux, c'est le mouvement social de décembre 95, pardon, et le qui avait été très très suivi évidemment à la SNCF. Et cette expérience de cheminot, l'événement est tellement important dans leur vie qu'il va changer jusqu'à la configuration de leur retraite et la forme de leur retraite, notamment en termes de sociabilité ouvrière qui se prolonge.
Nicolas Asfeld, vous souhaitiez réagir.
Oui, juste, on a peut-être, il faut pas oublier les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, juste ce que je voulais faire. J'ai travaillé avec des lycéens cette année pour essayer de leur faire imaginer ce qui s'était passé et surtout est-ce qu'on s'est amusé à faire de la contre-histoire, contre-factuelle, et voir comment ça aurait pu se passer autrement. Et je me suis aperçu qu'il y a encore aujourd'hui 15 000 salariés de l'automobile dans le nord-est de la Franche-Comté, le pays de Montbéliard. Donc il y a toute une série d'ateliers discrets qui travaillent pour ce site de Sochaux avec ses seulement 3 000 ouvriers de fabrication, mais il y a autour plusieurs milliers de jeunes qui travaillent dans des conditions limitées.
C'est intéressant, Nicolas Renaï, très rapidement avant que cette émission se termine, vous le dites, les déboires aussi de l'usine Peugeot ont modifié profondément la morphologie sociale de la région et qui se retrouve modifiée par ses choix économiques. Vous le dites, pour la plupart des gens que vous avez pu rencontrer, interroger, quasiment 90% des cas, leurs enfants n'habitent plus dans la région. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez le constat de Nicolas de Nicolas Asfeld, qui est de dire qu'il y a une forme d'espoir aussi, qu'il y a une forme de renouveau de ce point de vue-là, Nicolas Renaï.
Alors, du point de vue de l'emploi, oui, effectivement, l'emploi ouvrier continue, mais de manière nettement moindre qu'auparavant. Après, là où on manque d'enquête sociologique, c'est que Michel Pialoux a fini sa carrière par enquêter justement dans ces petites entreprises. C'est ce que Peugeot a monté, en fait. C'est les sous-traitants qui ont été créés dans les années 90, notamment dans ce qui est appelé localement le Technoland, où il y a, je crois, 5000 salariés.
Et qui se situe dans le même territoire. Un immense merci à tous les deux, Nicolas Renaï et Nicolas Asfeld, d'avoir participé à cette émission.